RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons aussi présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Les citoyens indonésiens en Malaisie profitent des services de transfert d'argent ». Muldoko a dit que la réunion entre Kim et Trump est un progrès de la paix dans le monde. L'accord Trump et Jong-un est suivi techniquement. Puis les marchés traditionnels doivent développer l'exportation. Et la dernière, BNPT, ou l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, renforce sa coopération avec la Malaisie. Voici le journal complet. Beaucoup de travailleurs migrants indonésiens et des citoyens indonésiens utilisent des services de transfert d'argent de la Malaisie, en particulier avant de l'aide El Fitr. Le transfert d'argent par un compte bancaire ou des transferts devait le choix des travailleurs indonésiens et même des citoyens indonésiens qui retourneront en Indonésie. Il a été observé dans la région de Chowkit à Kuala Lumpur, une région avec beaucoup de citoyens indonésiens. Dans cette région, en plus de nombreux stands de nourriture typique indonésien, il y a aussi beaucoup de kiosques qui offrent des services de transfert d'argent vers plusieurs pays, y compris l'Indonésie. Ifa, l'un des administrateurs du service de transfert d'argent à Chowkit, a déclaré à RRI mercredi le 13 juin que de nombreux travailleurs migrants utilisent le service de leur entreprise, en particulier pendant la saison des vacances de l'aide El Fitr. Beaucoup de gens qui envoient car on va célébrer la fête. Donc, beaucoup est un minimum de 55 ringgit, environ 5 000 maximum, 50 000 ringgit, plus de 100 millions. Ifa, qui est également un citoyen indonésien de Java de l'Est, a déclaré que le kiosque où il travaille ne sera fermé que pendant l'aide El Fitr. Jusqu'à présent, ces kiosques ne servent que les envois de fonds en Indonésie et dans plusieurs autres pays asiatiques tels que le Bangladesh, le Myanmar et la Chine et n'a pas été en mesure d'effectuer des transactions de retraite de l'argent d'un pays en dehors de la Malaisie. En outre, ce kiosque de transfert d'argent a été certifié par plusieurs banques nationales en Indonésie, dont de nombreux clients se sentent en sécurité et confortables à déposer leur argent à transférer dans leur ville natale. La deuxième nouvelle, le chef d'état-major du président de la République d'Indonésie, Muldoko, a déclaré que la réunion du président des États-Unis, Donald Trump, et de dirigeants de la Corée du Nord, Kim Jong-un, à Singapour, mardi, le 12 juin, était un progrès pour la paix mondiale. Comme cité par Antara, Muldoko à Jakarta, mercredi, a déclaré qu'en termes de politique étrangère, l'intention d'un pays était une chose qui doit vraiment à prendre en compte, comme, par exemple, de mesurer l'intention d'un pays d'envahir un autre pays ou d'établir la paix. Après avoir connu l'intention d'un pays, l'étape suivante est la communication. Selon Muldoko, la réunion entre les États-Unis et la Corée du Nord était un moment très historique. Et l'intention du dirigeant de la Corée du Nord d'arrêter son programme nucléaire devrait être respectée. La troisième, l'accord signé par le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'une réunion à Singapour mardi 12 juin devrait réaliser techniquement et global. Le président Donald Trump et le dirigeant de la Corée du Nord ont fait une déclaration commune de 4 points. Antara a rapporté Hikmahanto Juwana, le professeur de droit international à l'Université d'Indonésie à Jakarta, mercredi, le 13 juin, a déclaré que la déclaration était encore générale et les deux dirigeants ont convenu de mettre en œuvre cet accord techniquement. Selon lui, le secrétaire d'État américain Michael Pompeo et des hauts fonctionnaires de la Corée du Nord tiendront d'autres pourparlers. Hikmahanto Juwana a dit que la communauté internationale devait apprécier la réunion positive de Trump et Kim et donner l'espoir d'une paix durable dans la péninsule coréenne. Ensuite, la quatrième nouvelle, le gouvernement provincial de Java Central explore des marchés non traditionnels pour élargir les exportations des produits de la région. Le chef de l'Agence de l'industrie et du commerce de Java Central, Arif Sambodo, à Solo, a dit que mercredi qu'il y avait les difficultés rencontrées pour ouvrir de nouveaux marchés d'exportation, y compris les producteurs ne connaissent pas encore les opportunités qui existent dans le pays et les produits sont en demande par les consommateurs. Selon Arif Sambodo, son parti explore maintenant le marché du Suriname. Son parti est facilité par le nombre de descendants javanais vivant dans le pays. La dernière, l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme renforce la coopération avec la Malaisie et les pays d'Asie du Sud-Est pour la lutte contre les actes de terrorisme. Concernant cette question, le chef de l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, le commissaire général de police, Suhardi Alius, a rencontré le nouveau directeur de Cawangan spécial de Malaisie, le commissaire de police Dato Abdul Hamid bin Badar, à Kuala Lumpur, en Malaisie, mardi le 12 juin. Antara a rapporté que le chef de BNPT dans son communiqué de presse à Jakarta mercredi a déclaré qu'avec cette réunion, il espérait que la bonne coopération antiterroriste entre les deux pays pourrait être encore améliorée à l'avenir. Voilà le journal aujourd'hui.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'industrie ferroviaire indonésienne vers l'indépendance ». Le développement de l'industrie ferroviaire en Indonésie avait commencé en 1867, ce qui veut dire qu'il avait déjà 150 ans. À cet âge, l'industrie ferroviaire indonésienne progresse encore. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, a déclaré que l'Indonésie était actuellement l'un des plus grands acteurs de l'industrie de fabrication de l'infrastructure ferroviaire en Asie du Sud-Est. La preuve, les produits de l'industrie ferroviaire nationale ont été en mesure de répondre aux commandes du marché intérieur, même à l'étranger, en particulier dans les pays en développement et les régions. L'industrie ferroviaire indonésienne a un grand potentiel et de grandes perspectives commerciales. Par conséquent, le chemin de fer devient une industrie prioritaire dans le règlement présidentiel numéro 14 de 2015 sur le plan directeur du développement de l'industrie nationale 2015-2035. Depuis la promulgation du règlement présidentiel, le gouvernement et tous les intervenants de l'industrie ferroviaire en Indonésie ont pris des mesures concrètes pour soutenir la croissance et le développement de l'industrie ferroviaire nationale. Cette étape est marquée par la création de l'Association indonésienne de fabrication de composants ferroviaires. En outre, on fonde une société de petits trains dont les membres se composent de diverses industries dans les domaines du métal, du caoutchouc, des plastiques, des instituts de recherche et des consultants, totalisant environ 50 industries de composants ferroviaires et PT Inka comme intégrateur. La création de cette association est très bonne afin de créer une synergie entre la capacité de l'industrie ferroviaire du pays d'être en mesure de concurrencer avec les produits étrangers. La création de cette association est également une étape importante pour l'indépendance de l'industrie ferroviaire nationale. Environ 90% des matières premières utilisées par l'industrie ferroviaire proviennent du pays. Les industries soutenantes et les composantes domestiques sont maintenant en mesure de produire environ 70% des besoins totaux des composants ferroviaires nationaux, y compris la structure ferroviaire. Si l'industrie ferroviaire se développe d'être indépendante, l'industrie ferroviaire indonésienne pourra devenir le moteur de la conduite économique ainsi que la renaissance de la technologie nationale à l'avenir. La maîtrise de la technologie assurera l'indépendance de l'industrie ferroviaire indonésienne à l'avenir. À cette fin, le développement de l'industrie ferroviaire et de ses industries soutenantes doit être renforcé par la maîtrise de la technologie et des activités de recherche durable et avec la vision à long terme. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie dans le monde entier. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 juin. On commence par le 14 juin 1982. L'armée argentine se rendit aux troupes britanniques lors de la guerre de Falkland. La guerre de Falkland ou Malvinas est une guerre de deux mois entre l'Argentine et le Royaume-Uni à cause de la saisie des îles Falkland, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud. La guerre s'est terminée avec la capitulation de l'Argentine le 14 juin 1982 après trois semaines d'opérations d'amphibiens britanniques et d'opérations au sol sur l'île de Falkland de l'Est. Pendant la guerre, 649 soldats argentins et 255 soldats britanniques ainsi que trois civils de Falkland ont été tués. Le document de la capitulation de l'armée argentine à Falkland est maintenant conservé à Imperial War Museum de Londres ou le Musée impérial de la guerre Londres. La relation diplomatique entre la Grande-Bretagne et l'Argentine s'est rétablie en 1989 après que les deux pays ont accepté de ne plus parler de la souveraineté de l'île. Puis, le 14 juin 1985, l'accord de Schengen a été signé par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest pour abolir les contrôles transfrontaliers entre les pays. Le 14 juin 1985, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et la France ont signé l'accord de Schengen. Dans cet accord, il existe diverses règles de politique commune pour les permis d'entrée à court terme, y compris le visa Schengen, l'alignement des contrôles aux frontières à la coopération policière transfrontalière. Dans la région de Schengen, les postes et les contrôles frontaliers ont été supprimés et visa Schengen a été sorti. Les détenteurs d'un passeport et d'un visa de l'un des pays ayant appliqué l'accord de Schengen peuvent entrer librement sur le territoire de l'autre pays. Actuellement, l'accord de Schengen a été signé par 22 pays membres de l'Union européenne et 4 pays non membres de l'Union européenne. On termine ce programme par l'histoire de la Journée mondiale du don de sang. La Journée mondiale du don de sang est commémorée le 14 juin, conformément à l'accord de l'Organisation mondiale de la santé, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang et de l'Association internationale des transfusions sanguines. Cette détermination visait à exprimer une appréciation pour les donneurs de sang volontaires dans le monde entier qui ont contribué de manière désintéressée à sauver des millions de vies humaines ayant besoin de sang. La Journée mondiale du don de sang est commémorée pour la première fois le 14 juin 2004. La date se réfère à l'anniversaire de Karl Landsteiner, qui est né le 14 juin 1868. Landsteiner est un scientifique lauréat du prix Nobel en raison de sa grande découverte, c'est le système de type sanguin ABO. Voilà le programme de l'histoire d'aujourd'hui de RRI du Service mondial depuis Jakarta. Au revoir!
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie est prête à contrôler les déchets plastiques. L'Indonésie est prête à diriger le développement de l'engagement et du plan d'action pour l'action de contrôle des déchets marins et microplastiques en Asie du Sud-Est. Cette préparation a été bien réglementée par le plan politique et technique ainsi que la collaboration et la coordination au niveau régional et international. La délégation de la République d'Indonésie a transmis en suivant la réunion du groupe spécial à composition non limitée du groupe d'experts sur les déchets marins et les microplastiques dans le bureau du secrétariat de l'environnement des Nations Unies, Nairobi, Kenya. La réunion qui a lieu le 29 jusqu'à 31 mai était la deuxième réunion après la réunion de décembre 2017. Le président de la délégation indonésienne, le directeur général de la gestion des déchets et des déchets toxiques et les matières dangereuses utilisées au B3 du ministère de l'Environnement et des Forêts, Madame Rosa Vivienne Ratnawati a déclaré que que l'Indonésie a fait un programme prioritaire d'améliorer la gestion des déchets dans certains sites touristiques, y compris le parc national Merang. Inclus dans le programme est la prévention et la collecte des déchets plastiques en mer pour le recyclage, ainsi que la résolution de la gestion de l'impact des déchets plastiques et microplastiques. Elle a déclaré qu'en 2017, on a fait la surveillance des déchets plastiques en mer dans 18 zones côtières, dans 18 villes aux régions de 25 villes aux districts prioritaires. Cette activité se poursuivra dans les années suivantes. L'objectif est de réduire les déchets à la source de 30%, le traitement des déchets de 70% en 2025. L'Indonésie a justement des engagements au niveau international avec l'objectif de réduction de 70% des déchets marins en 2025. Selon Vivin Ratnawati, l'Indonésie a développé un cadre juridique et technique pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie de producteurs ou REP, étant en cours d'élaboration des plans d'action nationaux coordonné par le ministre de coordinateur des affaires maritimes. Le soutien a également livré l'Indonésie aux 193 États membres de PNU pour rédiger un guide complet dans la mesure et l'évaluation de l'impact des déchets marins et microplastiques dans tous les aspects. Le directeur exécutif de l'environnement des Nations Unies, Eric Solheim, a lancé un appel à toutes les parties pour réduire l'utilisation du plastique et le remplacer par un matériau qui est biodégradable, ainsi que concevoir des emballages en plastique recyclé qui peut réduire la pollution des déchets plastiques. Il a dit que les déchets plastiques dans la mer et les montagnes, notamment les microplastiques, ont commencé à perturber le mécanisme digestif du biote marin et des oiseaux. Par conséquent, l'ONU de l'environnement encourage les campagnes de réduction des déchets plastiques à tous les niveaux de la société. Chers amis, c'était la rubrique Modernésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
You're as bright as the sun. We deserve to
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Introduisant un site touristique à l'île de Madura, dont reçoit toujours avec nous le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. L'Indonésie en tant que pays maritime a une longue côte étirée, dont il est naturel que l'Indonésie a beaucoup de belles plages. Certaines d'entre eux, comme celui de Bali, à savoir Kuta et Sanur, sont déjà célébrées aux pays étrangers. Mais il y a aussi quelques plages cachées avec une beauté charmante. L'un d'entre eux est la plage de Siring Kemuning à Madura, précisément au village Mekaja dans le sous-district Tanjung Bumi, à environ 41 km au nord de la ville de Bangkalan. Comme son nom indique, la place de Siring Kemuning est un jeu jotre. Contrairement aux plages de sable blanc en général, le sable blanc à cet endroit semble un peu jaunâtre. Non seulement le sable qui semble coloré, mais les vagues qui balayent la plage semblent également jaunâtres. Le mot Kemuning est en fait dérivé de la langue japonaise. Très probablement, la couleur de la plage jaunâtre qui est devenue l'origine de ce nom de place Siring Kemuning. Si vous êtes à Bangkalan Madura, vous voulez profiter de la beauté de la plage Siring Kemuning, vous pouvez utiliser des véhicules privés ou de location, des bateaux ou des motos. Vous pouvez également utiliser des transports publics pour un coût de seulement 8000 rupiah. Vous pouvez passer par l'autoroute à deux voies qui est de l'ouest vers l'est et du centre vers le nord, avec un temps de trajet d'environ 1 jusqu'à 2 heures. Au moment où vous traversez la voie de centre, vous pouvez également profiter du beau paysage. De Surabaya, vous pouvez utiliser des routes terrestres et des routes maritimes. Du port Tanjung Perak à Surabaya, vous pouvez prendre un ferry pour Madura. Si vous utilisez la route terrestre, prenez une voiture de Surabaya à travers Suramadu. Pour y aller, il faut encore parcourir plus au moins 64 km. Vous pouvez entrer à la place de Siring Kemuning sans payer, mais vous devez payer le stationnement 7000 rupiah pour la moto et 10000 rupiah pour la voiture. Bien qu'il n'y ait pas encore d'installation à la place Siring Kemuning, vous pouvez toujours profiter de la beauté de cette place. L'atmosphère est fraîche en raison des nombreux arbres et le sable blanc jaunâtre, ainsi que la rose comme décoration, ajoutant à la beauté de paysage de cette plage. Bien que les vagues sur cette plage ne soient pas trop grandes, les visiteurs peuvent nager doivent toujours faire attention, surtout pour les enfants et les visiteurs qui sont moins adeptes de la natation. Comme la plage en général, le climat sur la plage de Siring Kemuning est très chaud. Donc n'oubliez pas d'apporter de la crème solaire et des lunettes de soleil pour protéger votre corps et vos yeux du soleil. Après avoir fatigué des yeux et profité de la beauté de la plage de Siring Kemuning, vous pouvez déguster le rujak lontong. la cuisine typique de Bangkalan vendue autour de la plage de Siring Kemuning. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans l'émission Ma Langue comme le média de la préservation de diversité des langues régionales en indonésienne. Tous les auditeurs, on se rencontre avec moi, Tiwi, dans la rubrique de ma langue. Dans cette édition, nous allons vous inviter à visiter la province de Java de l'Ouest pour apprendre à connaître diverses choses à propos de Sundanese. Les auditeurs, les efforts de préservation de la langue sundanaise ont de plus en plus diminué. Cela rend certainement l'identité des habitants de Sunda ou de Java de l'Ouest menacée. Et alors, le gouvernement indonésien met également en œuvre divers efforts pour maintenir la langue sundanaise. Comme indiqué par M. Sutejo, le chef du centre linguistique de la province de Java de l'Ouest, pour préserver Sundanese, il existe un magazine, nommé Magazine Pas Sundan. Ensuite, dans la région de Cirebon, il existe un magazine côtier dont la langue est typique de Cirebon et de Betawi, parce que c'est Betawi Malay aussi. Nous prévoyons également de créer un dictionnaire de trois langues indonésiennes, Sundanais et Cirebonang. Nous organisons aussi souvent un concours de Duta Bahasa, l'ambassadeur de la langue. Et dans ce concours, il faut être capable de parler anglais, indonésien et sundanais. Il faut être capable de communiquer en sundanais et d'écrire en sundanais. D'après les remarques de M. Sutejo, nous entendons divers efforts qui ont été faits par le gouvernement pour préserver la langue sundanaise. Mais, sans le soutien ou la réponse positive de la communauté, ces efforts de conservation seront vains. M. Sutejo a également dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui se soucient de la langue sundanaise. C'est très extraordinaire. L'ambassadeur de la langue sundanaise, la langue Java de l'Ouest, a compté près de 250 étudiants qui se sont inscrits. C'est le premier. Et deuxièmement, s'il y a des concours d'écriture sundanais, les intérêts sont remarquables. Les auditeurs, voici les exemples de mots en sundanais. Punten, punten, en français, excusez-moi. Ngalangkung, ngalangkung, en français, passé. Bade kemana, en français, tu veux aller où? Meser, meser, en français, acheter. Daharen, daharen, en français, des repas. tous les auditeurs, voici les exemples des phrases en sundanese. Punten iis, ngiring kalangkung. Punten iis, ngiring ngalangkung. Qui signifie « Excusez-moi, iis, je voudrais passer. » Eh, wis, bade kamana? Eh, wis, bade kamana? Qui signifie « Eh, wis, tu veux aller où ?» Abdi bade meser daharen kawarung. Abdi bade meser daharen kawarung. Qui signifie « Je vais acheter des repas à l'étal. » Tous les auditeurs, n'oubliez pas d'envoyer vos critiques et suggestions par les mails à voi@voinews.id ou par notre Facebook The Voice of Indonesia. Voilà l'émission de ma langue comme le média de la préservation de diversité des langues régionales indonésiennes.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop de l'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voinews.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons pop nostalgiques chantées par Ernie Johan. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « La baie de Bayur ». Bonne écoute.
Mencari ilmu di negeri orang.
Serviteur, c'était la chanson d'Ernie Johan intitulée La Baie de Bayeux. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Ernie Johan a commencé d'abord sa carrière dans les pays voisins à Singapour. Pourquoi son premier debut à Singapour? Parce que Ernie Johan a suivi ses parents, un diplomate indonésien qui a servi à Singapour. Une fois, elle a participé à la compétition de radio singapourienne Talent Time et a réussi à devenir finaliste et son nom est plus connu par le public à Singapour. Après cela, une chanteuse avec le nom complet Ernie Irawati Johan avec sa sœur Lisda Johan a formé un duo de chant nommé Ernie Sister. En 1962, elles ont sorti un album intitulé Tourisme de Singapour avec un single principal intitulé Surya Gemilang. En 1963, la famille d'Ernie Johan est revenue en Indonésie. Le premier président de l'Indonésie, Insinyur Soekarno, a souvent invité Ernie à chanter afin d'accueillir les invités d'État au palais de l'État. À cette époque, Ernie Johan avait rejoint le groupe Madenas, dirigé par Dimas Wahab, le père de trois membres du célèbre groupe de Beragi dans les années 1990. Avant de connaître mieux Ernie Johan, écoutons maintenant sa chanson suivante intitulée « Tu es toujours dans mon cœur ». Bonne écoute.
Bersemi di dalam hati, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya bersemi di dalam hati, dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Kasihku serahkan.
Cerita, vous venez d'écouter la chanson d'Ernie Johan intitulée « Tu es toujours dans mon cœur ». Ernie Johan atteint son âge d'or dans les années 1970. Son travail obtient toujours une réaction positive des amateurs de musique dans le pays. L'album intitulé « B de Bayour » par exemple, album avec le single dont le titre est même que celui de son album « B de Bayour » si populaire à cette époque. Grâce à cet album, le nom d'Ernie Johan a enregistré comme première chanteuse qui accepte Golden Record car son album a vendu des millions de copies. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons d'Ernie Johan intitulées Crépuscule à la frontière de ville. Bonne écoute et à demain!
Atas kota selalu teringat padamu saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu senja di batas kota terlukis di dalam kalbu.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, Dignifying.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Bukan mencari ilmu di negeri Allah.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons le magazine musical. Merci à tous et à bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.